Bonjour à tous, parlons-en. 10 minutes sans tabou, l'on peut tout se dire. Elodie Benmadi, thérapeute, je suis ravie et très enthousiaste de partager avec vous cette chronique qui vous est dédiée. Si vous ne le saviez pas, depuis le 6 novembre de cette année, le consentement a été intégré à l'article de loi concernant les accusations d'agression sexuelle et de viol. Quelle en est sa définition à ce jour ? Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et apprécié au regard des circonstances, sans pouvoir être déduit du silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Donc, par exemple, victime tétanisée, soumise chimiquement, inconsciente ou sous emprise. La loi de base ne change pas telle que si l'acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature, est condamnable. Cette nouvelle rédaction de loi ne modifie en aucun cas les dispositions particulières qui répriment les agressions sexuelles commises sur des enfants visant à protéger les mineurs des crimes et des délits sexuels et de l'inceste pour les mineurs de moins de 15 ans. Au regard de ce changement, qui je pense était important, je me retrouve malgré tout face à des jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, lors de mes consultations totalement tétanisées, à l'idée maintenant de pouvoir aborder une femme, draguer une jeune fille, sans savoir comment s'y prendre pour ne pas commettre d'erreur avec un mot qui résonne, respecter le consentement. Ce qui m'amène aujourd'hui à partager avec vous cette chronique sur la grande question taboue qui se pose pour plusieurs hommes aujourd'hui, peut-on encore draguer ? C'est quoi la drague ? En 1800, ce mot n'existait pas. On parlait de séduction, c'était une approche très lente, très codifiée, qui dépendait souvent du rang social auquel vous apparteniez. Le « faire la cour » était de mise. À cette époque, le flirt était alors une affaire sérieuse, un vrai engagement. Je vous l'accorde, il y avait une grande différence entre faire la cour chez les nobles et la bourgeoisie et faire la cour dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires, la séduction se faisait de façon beaucoup plus facile lors de fêtes locales, les guinguettes, les marchés, parfois même l'église. En fait, tout ce qui pouvait nous réunir. Les hommes étaient plus directs, mais l'honneur d'une femme restait quand même une valeur importante. Côté bourgeoisie, c'était une autre histoire. On se rencontrait dans des bals, à l'opéra, on avait des promenades organisées publiques. Les conversations sont polies, avec beaucoup de jeux d'esprit, de poésie. On ne se touche pas. On se regarde très longtemps, et par contre on s'écrit par lettres, ce qui donnait beaucoup d'amour épistolaire. La femme avait quand même, en majeure partie lors de cette séduction, la maîtrise de donner son accord par des codes. On peut y voir là une amorce de consentement, tel que laisser une fleur, un ruban, dans un message envoyé, dans un livre ou un courrier. Tenir un éventail d'une certaine manière, tout comme s'incliner un peu plus bas que la bienséance ne l'exigeait face à un homme pour lequel elle portait de l'intérêt. En 1800, la séduction contenait des risques. Une femme ne devait pas être vue seule avec un homme, sinon elle était considérée comme compromise, de ce fait risquait de perdre sa bonne réputation. Lorsqu'un homme était éconduit par celle-ci, il pouvait demander satisfaction. Il était alors confronté à un duel pour gagner l'être aimé. Ce qui, aujourd'hui entre nous, signifie tout bonnement que la notion de consentement de madame n'existait pas. Au-delà de ce côté poétique et angélique de cette séduction, n'oublions pas le nombre de familles aisées qui organisent des mariages arrangés, dont le mot « faire la cour » rendait bien triste des femmes dont on piétinait la parole, afin de répondre à une demande de la société bourgeoise. Aujourd'hui, on parle de drague. Aujourd'hui, les lettres papier en correspondance postale ont disparu. Peu de lieux de rencontres publiques sont à notre disposition. Plus de balles, plus de boum, la société a changé. Le respect de la femme aussi. Aujourd'hui, la drague existe-t-elle encore ? En 2025, quelles sont les voies principales de rencontre ? On y trouve évidemment les applications. Tinder, Bumble, Fritz, Apple Meetic, les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Snapchat et bien d'autres. Les échanges se font sur des temps légers et pourtant par ce biais, les gens croient encore à une relation sérieuse quand d'autres recherchent seulement une aventure. On a passé toutes les années 90 où on draguait dans les bars, où on pouvait discuter la nuit entière, partager des verres avec l'espoir d'obtenir le numéro de la personne avec qui on avait discuté pendant des heures, Nous étions là à attendre devant notre téléphone le lendemain matin, notre téléphone fixe, en disant « Bon sang, ce téléphone va-t-il sonner avec l'homme avec qui j'ai discuté hier ?» Aujourd'hui, le flirt repose sur le respect du consentement et c'est là que la drague se complique pour nos jeunes garçons. Interdiction de forcer, évidemment, mais créer une fluidité, être à l'écoute et savoir lire l'autre. Alors avec le Covid, nos horaires de travail, la baisse de notre budget financier, nous fréquentons moins les boîtes, les salles de sport. De ce fait, le contact physique est quand même très restreint. Comment faire passer l'humour, le regard et le langage corporel par des applis virtuelles? Pourquoi est-il devenu difficile aujourd'hui de draguer pour un homme? Les femmes, aujourd'hui, sont beaucoup plus prudentes. Elles ne refusent pas la drague, mais s'en méfient. Elles en ont assez de ces dragues de rue non sollicitées, surtout lorsqu'elles sont insistantes malgré leur « non merci, laissez-moi tranquille ». Elles en ont assez du non-respect de l'homme, des signaux qu'elles peuvent montrer comme désintérêt. Elles en ont assez d'être rapprochées dans des lieux qui ne sont pas adaptés, tels que leur travail ou les transports. Les femmes le savent, les risques de harcèlement sexuel ou de danger physique augmentent chaque année. Elles ont peur d'être suivies, insultées, agressées. Peu aujourd'hui, si vous les questionnez, se sentent en sécurité hors de chez elles. En France, MeToo est arrivé en 2017 et a profondément changé la façon dont les femmes parlent de leurs expériences. Les femmes parlent alors de dragues non consenties, souvent agressives, que la société banalise. C'est depuis que les hommes de leur côté, beaucoup sont déboussolés et adoptent une attitude de prudence. Les hommes sains veulent séduire sans passer pour quelqu'un d'intrusif ou de harceleur. On se rend compte en 2025 que les jeunes hommes ont peur ou alors sont hésitants à se lancer dans la drague. Ils ne sont pas contre la séduction, mais plutôt parce qu'ils ne savent plus très bien où passent les limites entre la drague acceptable et un comportement qui peut être perçu par une femme comme déplacé ou intrusif selon le caractère et l'attente de chacune. L'homme est-il envahi d'un manque de repères entre une frontière floue du flirt, de la séduction, une crainte de mal-être interprété et la peur que tout signe soit mal pris? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par un jeune homme de 21 ans qui a accepté de répondre à nos questions face à cette interrogation. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent à l'antenne et d'accepter de témoigner.
Ben merci à vous.
Votre opinion reflète donc une partie de la communauté masculine, c'est pourquoi je trouve très intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui et d'avoir un point de vue sur cette question. Alors la première va être très simple. Les hommes peuvent-ils encore draguer?
Je pense que oui, les hommes peuvent encore draguer. Simplement, les temps évoluent, les gens changent. De ce fait, les manières de draguer ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Là où à l'époque, effectivement, il y avait des signaux assez distinguables et assez visibles pour faire comprendre à l'autre qu'il y a une possibilité d'entamer une relation ou d'entamer quelque chose. Là, aujourd'hui, ces signaux sont inexistants. Il est difficile de distinguer un signal qui veut dire « entamons une relation sentimentale » d'un signal qui veut dire « entamons une relation amicale ».
Certains hommes, du coup, se plaignent, se disent ne plus être libres de draguer. Pourquoi vous avez ce sentiment d'être bridé? Pourquoi dites-vous qu'un homme ne se sent plus serein lorsqu'il drague? Est-ce que quelque part, vous avez peur?
Oui, d'une part, on a peur. Aujourd'hui, il est plus facile, enfin pour les femmes en tout cas, je parle, d'être victime d'une agression ou d'un harcèlement de rue. Ce qui fait que les hommes, aujourd'hui, on a peur. On a peur d'aborder les femmes. Comment ça va être perçu? Est-ce que... ça va pas être pris pour une agression, pour un harcèlement ou autre. Que oui, il est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'entamer une ouverture qui peut être bien perçue. Et je pense également, oui, aujourd'hui, les hommes se brident. Simplement, il y a cette peur-là de mal faire, de ne pas être sur la même longueur d'onde.
En même temps, quand je vous entends, il y a beaucoup de respect dans ce que vous dites, parce que la peur, en fait, est là pour un petit peu signifier que... Aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même une prise de conscience sur le respect de la femme. Mais est-ce que vous comprenez, par contre, l'évolution du discours féminin, l'inquiétude et la prudence qu'elles expriment face à la communauté masculine? Ou est-ce que vous la trouvez exagérée? Comment vous vous sentez par rapport à tout ça?
Moi, je la comprends. Je la comprends parce qu'effectivement, malheureusement, les personnes victimes d'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel ou autres, c'est en grande majeure partie des femmes. Même si certains hommes peuvent être soumis à être victimes. Je pense, à titre personnel évidemment, que cette peur doit être modérée. Il n'y a pas plus tard que le mois dernier, à l'Assemblée, la question revenait sur le tapis, et on affirmait que même un oui n'était pas nécessairement consenti.
Lors de la loi sur le consentement. Voilà. Faire intégrer le consentement dans la loi. Effectivement, il y a eu ce discours de la ministre.
Voilà. Donc, en soi, c'est vrai. Un oui n'est pas forcément consentir. Mais du coup, en tant qu'homme, si même le oui, c'est pas consentir, ou c'est pas nécessairement consentir, comment voulez-vous que d'un regard masculin, on se dise, est-ce que la parole, elle est vraie? Est-ce qu'elle est sincère ou autre? Oui, y a ce côté-là respectueux que je pense certains hommes ont.
Est-ce qu'il y a cette peur de, entre parenthèses, de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des représailles, mais en tout cas, d'une relation peut vous sembler consentie, parce que justement, le oui a été exprimé. Est-ce que le oui peut, d'un coup, dans la notion de la drague et l'évolution de votre relation, peut devenir un non? Et du coup, vous avez peur qu'il y ait des plaintes, des accusations, qui pour vous, pourtant, semblent non fondées?
Oui, il y a cette peur-là. Après... La communication, c'est primordial.
Et oui.
Et oui. Mmh. Parce qu'effectivement, un oui, ça peut être un oui. Comme un oui, ça peut, comme vous le dites, devenir un non ou même cacher un non. Ce sont deux formes de oui différents. Le tout, c'est de bien communiquer pour pouvoir les distinguer. Il faut surtout réagir de manière intelligente et pas se braquer ou pas se brider lorsque le oui devient un non ou le oui cache un non. Ça peut arriver. Le tout, c'est de communiquer.
Et est-ce qu'à l'inverse, en tant qu'homme, est-ce qu'il vous est arrivé de dire non?
Alors, de dire non, directement non.
D'accord.
Voilà. Après, le oui qui devient un non, ça m'est arrivé.
D'accord.
Même d'expérience personnelle, hein, une relation que j'ai pu avoir où nous étions d'accord tous les deux et puis après, ma partenaire voulait plus. Ce qui peut totalement arriver, mais dans ce cas-là, il faut communiquer, il faut dire les choses.
Il faut l'exprimer.
Faut l'exprimer et puis faut l'accepter. C'est quelque chose qu'on fait à deux, c'est pas quelque chose qu'on fait sous la contrainte où faut pas se sentir forcé de le faire. Bien au contraire, on le fait ensemble ou on le fait pas ensemble. C'est le tout, c'est de communiquer.
Alors du coup, on dirait comment 2025? Parce que concrètement, avant on se rencontrait, moi oui. Je fais partie de la génération 90-2000, on sortait beaucoup, on allait en boîte, on rencontrait des vrais gens. Donc à la limite, le consentement était assez rapide, c'est-à-dire quand on voulait switcher parce que quelqu'un nous intéressait pas, on passait à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des réseaux.
Oui.
Est-ce que la drague commence par là? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des étapes qui signifient quelque chose pour vous? Est-ce que c'est passer à une autre étape, c'est un début de consentement? Comment ça se passe maintenant?
Alors, je pense que c'est une autre manière de draguer. Effectivement, il y a la drague physique. Voilà, il y a la rencontre qui se fait dans un bar, dans une boîte. Le feeling passe, on passe un moment à deux, on se voit en physique. Et puis, il y a la drague sur Internet. Qui se démocratise de plus en plus, notamment avec le développement du coup, des sites de rencontres Tinder, Fruits, Bumble, est une bonne manière et qui sont développés notamment pendant la période du confinement pour justement garder cette interaction les uns avec les autres. À titre personnel, évidemment, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs étapes dans la drague en ligne, si on peut le mettre de gros guillemets dessus.
C'est intéressant, alors oui, je veux bien que vous développiez.
En fait, c'est simple, sur les sites de rencontres, comme par exemple Tinder, Fruits, voilà. Il y a déjà une première étape, il y a l'étape de validation physique. Tout le principe est là, c'est on a un profil, à gauche on est contre, à droite on est pour entamer potentiellement quelque chose. À partir du moment où les deux se disent ok, il y a match, première étape validée. La deuxième étape c'est entamer le dialogue, entamer la discussion. Si cette discussion aboutit à des messages un peu plus... personnel ou une discussion fluide, là oui, deuxième étape validée. Et puis après, la troisième étape, c'est éventuellement la rencontre. Donc dans ce cas-là, ça va être une proposition d'aller boire un verre, d'aller en date ou autre. Donc nouvelle étape franchie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens savent pourquoi ils y vont. La possibilité de faire des rencontres amicales. Aujourd'hui, tout se fait par étapes et par validation.
Alors, quand vous allez au bout de ces validations, parce que du coup, vous dites que la drague commence par là, on a validé le swipe, là, on a validé le match, on a validé la discussion, on a validé la rencontre physique autour d'un verre. Est-ce que déjà là, pour vous, en tant qu'homme, il y a quand même déjà, si la femme va jusque-là, une amorce de consentement?
Je pense que oui. Je me dis que la personne en face, si elle a liké mon profil, qu'elle a entamé une discussion, qu'elle a entretenu aussi la discussion avec ce jeu de questions-réponses, ce dialogue un peu ping-pong, qu'elle valide la proposition de se rencontrer autour d'un verre, d'un date ou autre, sachant pourquoi je suis sur le site de rencontre et sachant aussi pourquoi la personne est aussi sur le site de rencontre, c'est un peu une forme de validation, histoire de dire « Ok, maintenant, par message, c'est bien, mais en physique, c'est mieux ». autant franchir ce cap-là et puis en espérant que si le feeling est aussi fluide par message qu'en physique, pourquoi pas entamer quelque chose.
D'accord, mais vous pouvez vous y aller quand même dans un esprit où vous savez que c'est quelque part 50-50. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait continuer à être dans le bon vouloir de cette relation, comme vous savez qu'elle peut, du coup, ou vous-même, vous pouvez arrêter là. Il n'y a pas d'obligation parce qu'on se voit ou qu'on accepte un dîner. C'est souvent les questions que les femmes se posent. J'ai accepté le dîner, après la discussion, on se fait un date, j'ai accepté le dîner, j'ai accepté le verre. Sincèrement, en tant que femme, on se pose la question, que lui va-t-il attendre après ?
Comme vous le dites, du coup, c'est du 50-50, mais ça, c'est la même que ce soit sur Internet qu'en physique. Mmh. Une relation, c'est à deux. Donc, si on a un des deux qui ne veut pas, t'as 50% en moins. Mais sinon, après, sur le côté validation d'un potentiel dîner ou autre, j'ai envie de dire, c'est un peu du cas par cas. Si tu acceptes un dîner au bout de 3 jours de relation par message, oui, je comprends qu'il y ait cette question-là du est-ce que ça va aboutir à quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté-là de « j'attends un retour du rendez-vous » Je pense.
Qu'il n'y aura pas de suite.
Qu'il n'y aura pas de suite, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si la personne ne vous rappelle pas, vous n'insistez pas.
Oui.
Donc on retourne un petit peu dans nos années 2000 où on attend derrière notre téléphone à savoir s'il va sonner.
C'est pour ça, moi je pense que c'est une forme de drague différente, mais qui de toute manière aboutit au même résultat. Donc,
Et j'ai souvent entendu des jeunes dire, des jeunes hommes, plus hommes que filles, de dire que tous ces sites de rencontres, après tout, c'était une bibliothèque de profils. Et que comme on va à la bibliothèque choisir un livre, on va sur ces sites de rencontres pour choisir sa future ou son futur copain ou copine. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir les choses au niveau de d'un début de relation ou d'un début de rencontre ?
C'est un peu délicat parce que on choisit pas quelqu'un comme on choisirait un livre. Le tout, c'est que on garde cet esprit-là la première impression, c'est le physique. On choisit inconsciemment quelqu'un dans l'enveloppe qu'on voit. Après, on apprend à connaître la personne. Donc, on voit un peu l'enveloppe interne.
Voilà. Donc, pour vous, il y a l'un comme l'autre, hein, homme pour femme qui sont sur ces sites. Il n'y a rien de dégradant à se dire que d'un switch, d'un petit glissement de doigts, on est ou mis à la poubelle ou mis dans un panier potentiel.
Moi, je trouve pas ça dégradant parce que la personne ne le saura sans doute jamais qu'on ait été jeté à la poubelle. Mais non, c'est pas dégradant parce que de manière naturelle, on le fait un petit peu dans nos vies de tous les jours. Lorsqu'on rencontre quelqu'un en physique qui nous plaît ou qui nous plaît pas d'ailleurs.
D'accord. Il y a une question qui est passée l'an dernier, une petite vidéo qui a été virale, et je serais curieuse d'avoir votre avis si vous souhaitez bien partager cela avec nous. L'an dernier, on avait posé des questions à des milliers de femmes en leur demandant qu'en forêt, si elles croisaient un ours ou un homme, elles auraient peur de qui ? Et en grande majeure partie, voire même, j'ai envie de vous dire, 100% des femmes auraient répondu préférer croiser un ours. J'imagine qu'en tant qu'homme, ça doit résonner quand même d'une certaine façon. Comment vous prenez ça ?
On va pas dire qu'on le prend bien. Hein. c'est énervant parce que être comparé face à un animal dangereux et savoir que la femme aujourd'hui préfère être auprès d'un animal dangereux plutôt qu'un être humain, ça fait mal. Parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de société, que la majeure partie des femmes aujourd'hui ont peur de l'homme, ou du moins auraient moins peur d'être avec un ours qu'avec un homme. Donc ça montre bien aussi le comportement déviant de certains hommes vis-à-vis de la société, et de cette peur qui doit être prise en considération. Moi, ça me choque, ça fait mal. Après, le tout, c'est de le prendre avec philosophie et de se demander pourquoi aujourd'hui les femmes préfèrent choisir l'ours à l'homme. Pas toujours dire « Ah ouais, de toute manière, elles vont choisir un tel, donc je ne ferai pas d'effort. » Non, faut changer, il faut pas faire de généralité, pour le coup.
Alors, pour un petit peu juste élaborer le côté féminin de cette question qui a été très polémique l'année dernière, où on en a beaucoup aussi parlé entre femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions d'hommes quand on allait au travail ou autres qui nous disaient « Vous ne vous rendez pas compte ce que vous dites ?» C'est même à la télé, hein, il y a eu des journalistes qui se sont excédés de cette réaction. La réponse féminine globale, et donc ça rejoint un petit peu quand même le consentement, a été qu'en tout cas, on sait que l'ours, il peut nous tuer, nous éventrer, mais qu'en tout cas, il ne nous violera pas. Voilà. En fait, quand on discute entre femmes, on sait que le côté sexuel prime sur nos peurs et qu'effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on préfère passer la soirée avec un ours dans une forêt qu'avec un inconnu. Bon, c'était juste pour faire une petite parenthèse du côté de la réponse féminine.
Oui, mais du coup, après, c'est bien de ne pas faire de généralité parce qu'en fait, c'est ça qui énerve les hommes, c'est que par rapport à cette question-là de l'homme ou l'ours, on sait ce qu'il va faire, l'homme, on ne sait pas. Sauf que tous les hommes ne sont pas aussi violents qu'un ours ou ne sont pas aussi dangereux qu'un ours.
Je suis d'accord avec vous. J'espère.
Bah oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut savoir communiquer et il faut prendre en considération les ressentis des uns et des autres, que le consentement c'est très important, il ne faut pas avoir peur de dire non. Alors que non, tous les hommes ne sont pas des connards, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, des harceleurs ou des violeurs, hein, pour dire les termes. Tout c'est de ne pas faire de généralité.
D'accord. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un petit espoir positif entre les relations hommes-femmes dans l'avenir et la drague, l'amour, la confiance, malgré tout ce qu'on entend? Voilà, c'est vrai qu'on commence à se rendre compte un petit peu du combat, du conflit que se crée entre les hommes et les femmes à ce sujet, le not all men, certains disent que ça devient des combats féministes, alors que je pense plutôt que c'est des combats de société, comme on en a échanger en fait aujourd'hui.
Ça dépend les sujets.
Ouais. Voilà. Voilà. Vous pensez qu'il y a un avenir positif sur la relation homme-femme ou ça va devenir de plus en plus compliqué?
Moi, je pense que ça va être tout ou rien. Ça va être où l'évolution va être positive parce que les consciences et les mentalités vont évoluer en faveur du consentement, du rapport qu'on peut avoir avec les femmes. Ou ça va évoluer négativement dans le sens où inconsciemment les hommes se bloquent parce que il y a cette peur-là d'être accusé d'harcèlement, d'agression ou autre parce que les femmes ont été traumatisées. Mm-hmm. C'est peut-être un grand mot, mais ont été traumatisées du comportement et de certaines expériences qu'elles auraient pu vivre.
En tout cas, de l'ambiance sociétale qui règne.
Voilà, donc moi je pense que ou c'est une évolution plus que positive parce que les mentalités vont évoluer et vont prendre en considération cette notion-là de consentement, cette notion-là d'écoute et de communication, ou ça va être l'inverse, parce que justement, de par toutes ces généralités assez dénigrantes, il va y avoir une haine, des hommes vont avoir un discours ou des propos haineux vis-à-vis des femmes, et inversement.
Ça va créer un fossé.
Voilà.
D'accord.
Pour moi, c'est tout ou rien.
J'espère que ça sera tout.
J'espère aussi. Et je pense que ce sera tout parce que l'être humain est biologiquement et naturellement créé pour justement avoir des interactions.
Aimant.
Voilà, pour être aimant, pour avoir des interactions sociales. Je pense pas que l'humain, de manière générale, serait capable de créer un aussi gros fossé entre les hommes et les femmes.
Eh ben, c'est tout ce que je nous souhaite. Donc pour finir, donc oui, peut-on draguer?
Bien sûr.
Voilà.
Donc... Le tout, on peut draguer. Le tout, c'est de s'adapter aux générations actuelles et futures, aux méthodes de communication.
Et de se respecter l'un l'autre.
Exactement.
Écoutez, je vous remercie énormément d'être venu témoigner sur ce sujet.
Merci à vous.
Je lance un appel à tous ceux qui sont d'avis inverse. Au contraire, n'hésitez pas. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez écouter ce podcast sur studiozef.fr et retrouver tous les autres précédents. Vous pouvez également me poser vos questions ou faire des retours sur cette interview sur parlonsen41@gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.